À voix nue, Sylvie Tanette.
Laurent Meuvignier, écrivain.
Cinquième épisode, un auteur multiforme. Bonjour Laurent Meuvignier.
Bonjour.
Voilà, c'est notre dernière rencontre aujourd'hui. Alors on a essayé de comprendre dans les épisodes précédents ce qui caractérise votre travail romanesque. Mais c'était oublié que vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on dit, et vous êtes un auteur multiforme. Alors j'aimerais, dans ce dernier rendez-vous, qu'on explore un peu ces autres aspects de votre travail. En particulier, vous avez plusieurs fois écrit pour le théâtre. Et la première fois, c'était en 2012, Tout mon amour. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous êtes mis à écrire pour le théâtre?
Alors le théâtre, il vient de plus loin d'une certaine manière. Concrètement, il vient d'une chose très simple au départ, qui était que j'avais écrit 4-5 romans même, qui étaient des monologues. Et avec la question des monologues, c'est cette espèce de chose qui marche toujours comme ça, par effet boule de neige, qui grossissent, qui sont toujours en spirale, qui se déploient comme ça. Je me posais la question du dialogue, en me disant, je serais vraiment incapable de faire un dialogue, et donc quand j'arrive pas à quelque chose, ça, au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Donc je me dis, comment ça marcherait, quoi. Du coup, tous les étés, comme ça, j'essayais de me dire, tiens, comment on ferait ça, quoi. Et en général, enfin même pas en général, d'ailleurs à chaque fois, en septembre, je balançais ce que j'avais fait, tellement c'était pas du tout bien. Mais quand même, les questions, ces questions-là restaient... Me restais en tête, et puis j'allais beaucoup au théâtre, j'ai toujours aimé ça, voilà, il y avait quand même quelques auteurs qui me, sans parler évidemment de Beckett, du Duras et tout ça, tout le catalogue Minuit, mais des gens plus près de nous, Lagarce ou des gens comme ça. Mais en même temps, quand j'essayais, je sentais que j'arrivais pas à trouver cet endroit, et puis il se trouve que je vivais à Toulouse à l'époque, et il se trouve qu'il y avait le collectif Les Possédés, avec qui, du coup, on m'a proposé de faire une résidence parce qu'il voulait adapter un de mes textes, etc. Bon, et puis finalement, il y a eu ce projet de Tout mon amour, mais qui au départ était un projet de scénario pour Laurent Achard. Et puis ça s'est pas fait. Mais le problème, c'est que moi j'avais commencé à écrire cette histoire et je savais plus quoi en faire. Et le problème, c'est que quand je commence à écrire une histoire, je suis obligé de la terminer parce que je vis avec des personnages. Et une fois que vous avez donné un petit peu de vie à quelqu'un, vous pouvez pas le laisser en plan comme ça, ça se fait pas, quoi. On n'abandonne pas les gens au bord de la route. Moi, en tout cas, moi, je peux pas faire ça, quoi. Donc, je peux pas laisser comme ça dans les limbes. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai commencé à essayer d'imaginer les parcours des uns et des autres. Et puis, je me suis retrouvé en résidence avec ce collectif, Les Possédés, Rodolphe Dana. Et puis, du coup, pendant une semaine, on a essayé de travailler sur les personnages. Et donc, d'une autre façon, d'aborder ça d'une autre façon que le roman, quoi. Donc ça me mettait dans des positions totalement difficiles et totalement il y avait plus de socle pour moi. Donc c'était bien, j'aimais bien la difficulté dans laquelle ça me mettait, et ça a été un travail qui a duré l'écriture a duré 2 ou 3 ans, quoi. Ça a été très long en fait comme travail.
Mais justement, comment vous savez quand c'est bien ou pas? Vous nous dites, je voyais que c'était pas bien.
Ah non, parce que quand c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Ça, je peux vous assurer que tout le monde le voit. et vraiment, il faut vraiment... Non, il y a un moment, je sais pas si c'est bien, mais il y a un moment, quand c'est pas bien, vous le savez. Mais à un moment, il y a une forme ou pas, quoi. Quelque chose qui va éclore, qui... je sais pas, qui répond présent, quoi, d'une certaine manière. Et ça veut pas dire qu'il y a pas encore du travail, ça veut pas dire qu'on est au bout du chemin, et ça veut pas dire que c'est bien la toute fin. Ça serait très présomptueux de le dire. Mais en tout cas, il y a un moment où vous pouvez pas aller plus loin. À un moment, vous savez que là, pour vous, c'est l'endroit où ça se passe. Voilà. Bon. Donc ça, le théâtre, il s'est un peu posé comme ça. Et puis, mais il est né aussi d'un autre désir qui est. Mais ça, c'est, alors je sais pas si c'est politique ou si c'est juste complètement personnel, pour le coup, d'une façon d'être au monde, en fait. Je supporte pas l'assignation à résidence, en fait. Je supporte pas qu'on me, à un moment, voilà, je suis romancier, quoi. On me dit, ah, je suis romancier, machin, etc. J'ai envie de m'enfuir, en fait. C'est pas une question par rapport aux autres de dire que j'ai pas envie d'être là où on m'attend. voyez, ou des choses comme ça. Mais j'aime le mouvement. J'aime être en mouvement, en fait. J'ai besoin d'être en mouvement. Donc c'est pour ça que d'un roman à l'autre, j'ai envie que quelque chose se déplace. Mais à l'intérieur même de l'écriture, j'ai l'impression que j'ai besoin de trouver des formes qui contredisent un petit peu des fois le roman, qui vont un peu le chercher, un petit peu le titiller, un peu le, c'est-à-dire engager un dialogue à l'intérieur du travail, qui est parfois une confrontation, qui est parfois un petit
mais
peu
oui,
une bagarre.
Mais oui, c'est ça,
quoi.
Parce que j'ai l'impression, Laurent Auvigny, avec cette première pièce, notamment Tout mon amour, qui est une réunion familiale avec quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est loin, qui va revenir pour la mort, etc. On est à la fois dans un univers romanesque de Laurent Auvigny, on est à la fois dans quelque chose d'un peu différent, puisque c'est du théâtre. Et j'ai l'impression que votre écriture théâtrale, elle modifie votre écriture romanesque. Enfin, il y a une espèce de dialogue, en effet, entre les deux.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ça a beaucoup modifié ma façon d'intégrer, par exemple, le dialogue dans le roman. Je sais que ça a changé des choses. Et ça m'a permis, pour le coup, ça m'a permis un petit peu aussi sortir de la question du monologue. Ça m'a permis d'assumer quelque chose d'un narrateur à la plus omniscient ou des choses, d'assumer le roman peut-être plus classique dans sa forme, c'est-à-dire avec à la troisième personne, etc., et d'assumer dans le par le théâtre une autre forme d'incarnation.
Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le théâtre, vous revenez aux fondamentaux et vous revenez à l'expérimentation, par exemple dans une pièce qui s'appelle Proche, que vous avez mise en scène, et c'était votre première mise en scène à l'automne 2023. Le texte est sorti chez Minuit, a été publié. Les gens parlaient les uns sur les autres, les dialogues se chevauchaient, et vous avez trouvé un système graphique pour que sur le texte, on puisse comprendre ça en lisant la pièce. Et moi, ça me fait penser à ce que vous nous avez dit dans la deuxième émission. Quand vous étiez au Beaux-Arts, vous mettez des mots et de la peinture. Donc j'ai l'impression que vous, avec le théâtre, vous reprenez ce même type d'expérimentation de vos tout débuts.
Ben oui, parce qu'il y a j'ai des frustrations avec le roman. J'adore ça, mais il y a quand même des espaces qui me manquent un peu. C'est-à-dire, par exemple, on peut pas, le roman, par nature, il est linéaire. Même si on met plein de personnages, on peut faire ce qu'on veut, c'est une phrase après l'autre, quoi. Alors que, justement, au théâtre, on peut créer un espace sonore. Quand j'étais au Beaux-Arts, pour le coup, j'aimais beaucoup la poésie sonore. J'en écoutais beaucoup. Des gens comme Bernard Hetzig et tout ça, ça m'intéressait énormément, ça. Donc, il s'agit pas de refaire des choses comme ça, etc. Mais en même temps, je me disais comment, à partir de mon travail à moi, de mon lieu à moi d'écriture, on peut aussi faire entendre un espace sonore, un espace qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. Et je trouve que le théâtre, justement, parfois, dans les dialogues, je trouve qu'on a, alors peut-être parce que c'est peut-être une question française, je sais pas, mais je trouve qu'on est très, très, très poli, quoi. C'est-à-dire qu'on répond bien à l'injonction qui nous est faite de ne pas nous couper la parole et de, alors que dans la vie, c'est totalement faux. Tout le monde se coupe la parole tout le temps. Personne ne s'écoute. Je me souviens, quand j'étais enfant, je leur parlais de ça aux comédiens. Quand j'étais enfant, donc c'est vraiment lié pour moi à l'écrire, vraiment au moment où j'ai commencé vraiment à écrire, à 9 ans, je me souviens, j'étais dans ma chambre, les après-midi, très silencieux, très calme, comme ça, parce que mes frères et sœurs partaient à l'école, et moi j'étais dans ma chambre, et ma mère recevait...
Vous étiez malade à l'époque.
Ouais. Ouais. Et ma mère recevait c'est une voisine ou une tante, je ne sais plus, et elles prenaient leur café dans la cuisine, et je les entendais dans la cuisine, et ça durait, je ne sais pas, une heure ou deux, et elles parlaient toutes les deux en même temps, et en fait, aucune ne s'écoutait, en fait, elles buvaient leur café, elles avaient l'impression d'avoir passé l'après-midi à papoter, mais en réalité, chacune faisait son monologue, et moi, de ma chambre, j'entendais une espèce de bruit, quoi, dont j'ai l'impression de me souvenir encore. Je sais pas du tout de quoi elle parlait, hein, mais je me souviens de cette espèce de brouhaha, de, puis d'un seul coup des silences, puis d'un seul coup ça repartait, il y en a une qui repartait comme ça, etc. C'était totalement musical, mais encore une fois, totalement musical, mais presque dans un sens de percussion, quoi. Et ça me plaisait beaucoup, et c'est vrai que pendant des années, je me suis dit, mais je n'ai jamais entendu ce son-là au théâtre. Jamais. Et pourtant, j'ai vu pas mal de choses. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire que quand on fait la question du désordre, elle est toujours posée par le corps, jamais par la parole, comme si la parole, non, c'était sacré, chacun parle à son tour. Il y a eu des expériences un petit peu comme ça, j'allais dire, je pense à Notre Terreur, Creusevaux avait fait Notre Terreur, mais parce que là, c'était pendant la Révolution française, il y a des supports comme ça, mais pour moi, vraiment, essayer de travailler ça dans le langage, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qui n'est pas tant que ça expérimenté, quoi, en fait, quoi. Et puis, c'est ce qu'on ne peut pas faire dans un roman. Superposer, ça, on ne peut pas le faire.
Bah oui, de fait. Mais ce qu'il y a aussi entre votre théâtre et le roman, il me semble, c'est que, alors, sur un tout autre sujet, c'est la position des corps, justement. Parce que souvent dans vos romans, la posture, la position des corps, vous passez beaucoup de temps à nous expliquer exactement les personnages, comment ils sont situés les uns par rapport aux autres, comme s'il fallait visualiser très précisément. Est-ce qu'on retrouve après dans votre théâtre, dans la position des personnages sur la scène?
Ben, c'est vrai que je me dis, ça j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que je me dis maintenant, j'aurais envie presque de travailler à cette question des déplacements des corps et de l'enchaînement des séquences les unes par rapport aux autres, comment on passe. Et je me dis, quand j'y arriverai à peu près, je pourrais presque me débarrasser du texte en fait, pour arriver vraiment à ce que pour moi, j'ai l'impression que la mise en scène est une espèce d'aboutissement de l'écriture. C'est une forme d'écriture qui peut se débarrasser des mots, quoi. Et c'est marrant parce que je pensais beaucoup à ça, et puis je suis retombé sur les pièces de Beckett pour la télé, Quad, ou des choses comme ça, où c'est vraiment la question du déplacement des corps, mais pas l'incarnation finalement, le mouvement. La question du mouvement, en fait. Et comment, on peut presque finir par effectivement se débarrasser du texte. Proche, ça s'est fait de telle manière, au départ, on travaillait avec des comédiens sur un texte, et puis quand on s'est demandé s'il fallait le mettre en scène, s'il fallait faire quelque chose, on a dit, OK, on y va. Et moi, ce qui m'intéressait à l'idée de le faire, moi, c'était pas tellement de me dire, je vais faire de la mise en scène. J'avais envie de faire de la mise en scène, mais en fait, là, c'était pas ça la question. La question, c'était, le texte, je vois plus comment le faire avancer. La seule chose qui peut me faire avancer le texte, c'est, tiens, ben, lève-toi et va à la table. Ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il raconte du texte? Est-ce qu'il est dans le texte? Est-ce qu'il est le texte? Et d'un seul coup, la mise en scène, elle est venue comme une sorte d'aboutissement d'un geste d'écriture.
Et le cinéma, Laurent Mauvignier? Parce qu'à la fois, vous avez fait des courts-métrages, mais aussi le cinéma, il entre d'une autre manière dans votre travail. C'est que un livre comme Histoire de la nuit, par exemple, mais peut-être Autour du monde, on a l'impression que c'est un film intégré dans un roman, dans la façon dont certaines scènes sont construites, et même la façon dont le livre est construit. Histoire de la nuit, c'est une espèce de film à suspense, on dira pas la fin, voilà, c'est un peu comme ça. Et donc le cinéma, ça influe aussi sur l'écriture de certains romans?
Oui, ça influe, mais parce que je fais partie pour le coup d'une génération qui a été quand même élevée au cinéma, et puis parce que je pense aussi que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, il y avait un tel refus de la fiction. Il y avait un tel tabou autour de la fiction et de la littérature, le mort au roman, le roman c'était fini, tout ça. Donc ce rapport à la fiction, en fait, on était content quand il y avait un Scorsese qui sortait, parce que du coup, Raging Bull, c'était, on se disait, bah voilà, les grands romans dostoïevskiens, bah, ils étaient au cinéma en fait, quoi. Comme ça, on pouvait avoir notre dose de fiction sans passer par l'écriture, mais quand même, on pouvait avoir cette satisfaction-là, et c'est le cinéma qui nous le donnait. Et la littérature, c'était sérieux, donc c'était pas ça. Mais moi, ça m'intéressait, du coup, en revenant à la question de la fiction, que dans le roman, il puisse y avoir ce côté premier degré que j'aime au cinéma aussi, quoi. Ce qui n'empêche pas le cinéma d'être un grand art. Donc le cinéma, oui, du coup, de ce point de vue-là, toujours compté. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est autant au théâtre, on peut justement superposer des voix et créer des choses qu'on ne peut pas faire dans un roman, autant il y a quelque chose au cinéma qui me bouleverse et que je ne pourrai et que personne ne pourra jamais faire dans un roman, c'est nous donner à voir un visage. Les descriptions des visages dans les romans, il n'y a rien de plus calamiteux. Mais vraiment, c'est les yeux en amande, le nez aquilin, les fossettes, les pommettes saillantes, vous avez toutes ces conneries, des descriptions épouvantables, d'une banalité. Et puis vous allez prendre n'importe quelle description. Et vous prenez 50 lecteurs, vous allez, t'as la description là, vas-y, dessine-moi le portrait. Évidemment, vous allez avoir 50 têtes, 50 dessins. Alors, c'est la force du roman, mais c'est aussi la preuve de son incapacité totale à décrire des visages. Ce qui est pas grave. ce qui est pas grave. Et moi, je pense qu'on a inventé le cinéma pour combler ça, pour combler cette lacune. Je pense que la littérature avait il lui manquait un espace. Et moi, ce que j'adore au cinéma, c'est les visages, quoi.
Mais qu'est-ce que ça fait à l'inverse quand un de vos romans est adapté au cinéma? C'est arrivé, je crois, deux fois. Il y a des hommes qui a été adapté et continué. Comment ça se passe? Parce que d'un coup, un personnage a un vrai visage.
Ouais, c'est une question un petit peu étrange, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je suis en face d'un objet. Alors, c'est un peu différent pour des hommes, parce que des hommes, Lucas Bellevaux a repris, un petit peu réécrit et réadapté. Il y a beaucoup de voix off. Donc, j'ai l'impression qu'on sent la présence quand même d'un livre. Le truc qui me perturbe peut-être le plus, c'est le rapport à la durée. C'est-à-dire qu'évidemment, comme il y a un montage, etc., qu'on doit un petit peu faire tenir dans la boîte un peu moins de 2 heures, je trouve toujours que ça va assez vite, en fait. Alors qu'effectivement, le roman peut prendre plus le temps de s'étirer, quoi. Mais sur la question de l'incarnation des personnages, c'est très troublant. Pour le coup, des hommes, j'étais allé dans le Morvan assister au je suis resté 2 jours au tournage, 2 ou 3 jours, je sais plus. Et c'était la scène de la salle des fêtes. Et alors, c'était très étrange parce que c'était dans une vraie salle des fêtes, mais avec des trucs reconstitués, quoi. Avec des gens qui étaient là, des figurants, tout ça. Et alors, c'était très étrange pour moi parce que quand j'ai écrit le livre, je pensais à une salle des fêtes. Je pensais à la salle des fêtes de Descartes. Je pensais à des gens. Je pensais à des objets. Et d'un seul coup, même l'espace dans lequel j'étais, tout me paraissait être de la fiction, quoi. Alors que c'était réel, ils étaient vraiment là, les gens. Mais c'est très étrange. Je sais pas ce que c'est, en fait, cet écart-là. Et j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que voir les films après, par exemple, honnêtement, je sais pas quoi en penser, ni je sais pas comment les regarder, en fait.
Et vous avez écrit des scénarios ou des tentatives de scénarios?
Ouais,
de
c'est films, comme c'est comme le théâtre. Mon talent n'est pas forcément là au départ, donc je m'accroche, quoi. Non, j'ai une vraie envie de ça, bien sûr, parce que je pense que c'est pour que je réussisse à trouver cet endroit, il faut que ce soit un endroit qui soit relié à l'écriture du roman, mais un endroit où le roman peut pas aller. Et il faut que ça questionne le roman, ça. Sinon, je peux pas trouver. Mais c'est une écriture tellement différente. C'est un rapport à la durée, un rapport. C'est-à-dire que, par exemple, d'une certaine manière, Histoire de la nuit, c'est un anti-film, en fait. L'histoire, elle est tellement cinématographique, tellement on l'a vu, tellement vu et revu. D'ailleurs, j'ai même été surpris, moi, quand le livre est sorti, je me suis dit, mais personne ne va croire en cette histoire, tellement tout le monde l'a vu. Mais la question, c'était de me dire, dans une fiction, si vous vous faites kidnapper, on a peur, mais on sait que c'est pas grave, quoi. Et je me disais, il faut l'écrire comme si c'était vraiment grave. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de montage, comme s'il n'y avait pas la musique derrière, comme s'il n'y avait pas... Qu'est-ce qui se passe quand ça vous arrive? Là, il y a des gens qui en est là, il y a des gens qui déboulent et qui nous kidnappent. Même si ça ressemble à un film, on ne le vivra pas comme dans un film. Et donc, je me dis, mais c'est ça qu'il faut retrouver. Une fois encore, ce rapport à la réalité, comment on éprouve les choses, quoi. C'est-à-dire oublier tout ce que la fiction nous a tous les clichés sur ça, comment on est un petit peu trop contaminé par ça, et comment on peut arriver à trouver un sentiment, non pas neuf, mais au contraire, totalement débarrassé de des couches d'habitude, de fiction, pour retrouver un sentiment un petit peu peut-être plus archaïque, plus de peur, plus réelle, plus profonde, plus...
Retrouver l'intensité. Ouais. Mais pourquoi vous avez toujours ce besoin, Laurent Auvignier, depuis la première émission que vous nous parlez, de justement vous enfuir toujours et essayer d'autres choses, essayer de vous mettre en danger avec des nouvelles façons d'écrire, enfin de...
Je serais bien incapable de vous répondre. Je sais pas, parce que... Si, je sais un petit peu, en fait. Il y a des choses que je sais un petit peu. Moi, c'est un rapport à la vie, c'est un rapport à une urgence, en fait. Je me dis, c'est une chance, c'est fabuleux d'écrire, quoi. Il faut que ça soit un événement. Il faut que ce soit une rencontre. Pour moi, quand je vais vers le texte, je veux rencontrer des personnages pour que ça devienne des personnes. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très... C'est un lieu. Et j'espère que ça l'est aussi pour le lecteur. Il faut que ce soit pour le lecteur. Donc ça implique de se déplacer toujours un peu, d'être toujours un petit peu sur la brèche comme ça pour pas être paresseux avec ça, quoi. En fait, j'ai toujours un peu peur que les choses se figent et de qu'elles se figent de manière à ce qu'on où on devient nous-mêmes des représentations de voilà, c'est-à-dire que en train d'écrire, en train de se voir écrire, en train de faire l'écrivain, en train de c'est affreux ça. Ça me fait ça je trouve ça pas possible quoi. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui énerve, quelque chose qui soit de l'ordre de la vie quoi. Retrouver de la vie tout le temps quoi. Donc ça implique je trouve que ça implique une sorte d'obligation à pas se renouveler pour se renouveler mais vraiment se dire réinjecter quelque chose d'une prise de risque avec soi-même qui voilà, qui soit. De toute façon, on fera toujours le même livre à la fin, donc c'est pas grave, quoi. On peut changer, il faut changer.
Mais comment vous commencez un roman? Comment ça démarre encore aujourd'hui? Donc vous avez plus de 20 ans d'écriture maintenant.
Bah, alors, il y a deux solutions, en fait. Soit c'est parce que d'un seul coup, j'ai une image, par exemple, continuer, ça a été une image, plus une lecture, deux, trois trucs, deux, trois éléments comme ça qui se rencontrent. Mais de manière un petit peu gratuite et dont je sais pas ce qui les relie, donc je suis obligé de commencer à écrire pour savoir ce qui ou alors par exemple le roman que je suis en train d'écrire qui de ce point de vue-là ressemble un peu à des hommes ou des choses comme ça qui sont liés à des vieilles choses des choses de mémoire là pour le coup de mémoire familiale de choses plus intériorisées qui sont très anciennes. Et dont je ne sais pas comment me débarrasser, qui voilà, là c'est un temps de latence très très, c'est très long et à un moment il y a une entrée qui se trouve mais voilà, il y a pour les deux modes opératoires, c'est soit très rapide comme ça avec des choses, soit au contraire des choses qui reviennent de très loin et qui alors après, ça se croise des fois à l'intérieur de ça. Hein. Histoire de la nuit, par exemple, j'étais vraiment convaincu au début d'écrire une sorte de thriller, machin. Et puis au fur et à mesure, je dis, ah ben non, c'est un truc sur les femmes. Et puis en fait, ah ben non, à la dernière page, ah ben non, c'est encore autre chose en fait. Toujours ce qui motive, je sais pas. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi.
Mais au fond, Laurent Mauvignier, depuis 5 émissions qu'on discute, qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans votre travail? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne de tout ça, de tout ce qu'on s'est dit?
Alors ça, c'est la question piège. Mais vous savez, c'est la question piège parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça. Je sais juste que ce serait insupportable de ne pas le faire. Mais je suis incapable de vous dire pourquoi je me mets à ma table tous les jours, pourquoi, par exemple, quand j'aborde la fin d'un travail, quel qu'il soit, je sais qu'il y a dans ma tête quelque chose qui commence déjà à chercher deux ou trois pistes d'autre chose. Alors peut-être parce que je suis pas assez courageux pour ne rien faire. Je n'arrive pas à ne rien faire. Alors bon, c'est une réponse de un peu lâche, mais je suis incapable de savoir ce qui motive profondément tout ça. Et même sur les questions politiques, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne peux pas répondre sur la question militante ou autre, parce que ça serait être une espèce de conscience active de... Et pour autant, j'ai pas envie de dire que je subis l'écriture, ça ne me tombe pas dessus, hein, c'est pas la vocation comme ça et tout ça, ça j'y crois pas non plus. Mais en fait, l'écriture est un lieu, pour moi, c'est une sorte de lieu d'habitation où j'ai l'impression d'être à peu près chez moi et où j'ai l'impression que je suis au plus près de ce que j'éprouve comme vérité d'être, en fait. Là, je pense même pas au lecteur ou à quoi que ce soit, ou même à la fabrication d'un livre. Enfin, simplement comme rapport à l'écriture, comme rapport à. Donc, je saurais absolument pas. J'allais dire, je suis très impuissant avec tout ça, en fait. Je suis, j'essaie de donner des formes à des choses qui se construisent, et puis qui, quand elles se trouvent assez vite en général. Se trouvent. J'ai parfois l'impression que quand je mets, par exemple, un temps long à aller vers un livre, une fois qu'il se construit, il sait ce qu'il veut dire. Il sait pourquoi il veut le dire. Et moi, ça m'intéresse d'aller le chercher, de le découvrir au fur et à mesure. Par exemple, à chaque fois que j'ai trouvé un titre avant d'écrire un livre, je n'ai jamais écrit de livre. Parce que si le titre le contient, il n'y a plus de livre, en fait. Et donc, à chaque fois, c'est toujours une espèce de... Il y a quelque chose de très empirique, de très... Donc, je serais incapable de dire... comment les choses viennent et encore moins pourquoi elles viennent, c'est quoi la nécessité, etc. Parce qu'on retombe tout de suite sur des clichés aussi d'écriture, la nécessité, tout ça, la vocation, c'est, ou je ne sais quoi, ou les choses à dire, ou le problème c'est qu'on est obligé, moi je suis obligé de le faire pour voir pourquoi je le fais en fait. Et parfois je suis étonné parce que des fois ça prend forme et je me dis ah tiens là il y a quelque chose se passe quoi donc je reviens toujours à l'expérience de loin d'eux en fait sur ça où je me souviens de ce que c'était avant loin d'eux du vide et de l'effondrement intérieur que c'était à chaque fois d'écrire et puis de voir que c'est ça. Que ça me glissait entre les doigts, qu'il se passait rien, quoi. Je sais pas du tout. Je me relis jamais, en fait. Moi, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Et je sais pas si ça vaut la peine. Si c'est pas que je m'en fous, mais je veux pas descendre de mon fil et je préfère continuer à travailler, en fait.
Et vous faites que ça.
Et je fais à peu près que ça, ouais. Ouais.
Merci, Laurent
Merci.
Bouvignies, pour ces rencontres.
Eh bien, merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Marie-Laure Ciboulet, une série de Sylvie Tanette, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.